Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur IDFM Radio, votre radio et votre émission Mission Planète Terre. Alors aujourd'hui on est quelque part sur la planète, on est à Paris, on est en région Île-de-France et on va retrouver Tony Renucci qui est le directeur de l'association Respire. Bonjour Tony Renucci.
Bonjour.
Comment allez-vous, ça va?
Bah, très bien et vous?
Très bien, merci. Alors, Tony Renucci, déjà, ce que je vous demande, c'est de vous présenter. Qui êtes-vous? Je sais que vous êtes un énarque et vous êtes à la direction donc de cette association Respire. Quel a été votre parcours? Depuis combien de temps êtes-vous à la direction de Respire? Et présentez-nous cette association Respire que vous dirigez.
Donc, je suis Tony Renucci. Je suis le directeur général de l'association Respire. C'est cette association qui existe depuis 2011, qui compte 2800 adhérents. Et qui a pour but de sensibiliser l'opinion sur le sujet de la qualité de l'air et influencer les acteurs publics pour prendre des décisions qui soient favorables à la qualité de l'air. Et donc moi, personnellement, je suis issu initialement d'une école de commerce, j'ai travaillé dans le lobbying, j'ai travaillé dans le conseil en organisation pendant 6 ans pour le secteur public, et puis j'ai voulu trouver plus de sens finalement à mon métier, comme beaucoup de personnes dans mon âge, dans les trentaines, parfois quarantaines d'années. Et je l'ai trouvé en reprenant mes études. Donc c'est là que j'ai fait le master spécialisé à l'ENA en prévention et gestion territoriale des risques, dont j'ai été diplômé. J'ai fait mon sujet de thèse professionnelle sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air à Paris, avec une comparaison internationale sur Londres et New York. Un vaste sujet. Et puis au bout de 3 ans, j'ai fini par trouver l'opportunité qui me donnait envie de changer de voie professionnellement, et je suis très épanoui maintenant depuis 4 ans chez Respire.
D'accord. Alors je trouve c'est intéressant pour nous de vous inviter aujourd'hui parce qu'en fait souvent la pollution de l'air, c'est une question qui est pas suffisamment prise en considération. On parle beaucoup de réchauffement climatique, d'adaptation au changement climatique, mais la qualité de l'air, ça vient souvent en second. Comment expliquez-vous ça?
Alors déjà, je confirme ce que vous dites. C'est vrai qu'on parle beaucoup du climat, on parle beaucoup de la planète et on parle pas tant que ça de la qualité de l'air, mais parce que je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la même chose. Ils associent les deux sujets. Alors c'est pas totalement faux sur certains aspects, mais ça reste 2 choses différentes. Le climat, c'est comment est-ce qu'on va protéger la planète du réchauffement. La pollution de l'air, c'est comment est-ce qu'on va protéger la santé humaine des maladies et notamment aussi de la mort. Donc on est vraiment sur quand même 2 sujets qui sont différents. Alors après, peut-être que tout simplement c'est aussi sorti plus tard dans les médias, dans le débat public, de parler de qualité de l'air par rapport à une prise de conscience sur le climat qui était arrivé plus tôt, probablement aussi avec certaines publications ou certaines représentations aussi, parce qu'il y avait aussi quand même des politiques qui assumaient d'en parler très tôt. Donc je pense que c'est peut-être ça qui l'explique. Et puis je pense que sur certains sujets très précis, on sait quand même que la pollution de l'air, c'est quand même aussi un sujet lié aux voitures, et à l'impact des voitures et de leur pollution. Et je pense qu'il y a aussi un peu une omerta quand même, notamment avec certains lobbies, avec des constructeurs automobiles, avec certains politiques aussi. Et on n'a pas forcément fait en sorte de mettre ce sujet en avant. Mais heureusement, les temps ont changé.
Donc, en pratique, votre association Respire, elle étudie aussi la qualité de l'air, uniquement sur Paris ou sur l'Île-de-France aussi?
Ah non, sur toute la France.
Sur toute la France.
On est une association nationale, bien sûr, sur toute la France. Alors, c'est vrai que dans nos sujets, on parle beaucoup de Paris, de l'Île-de-France, déjà parce qu'on est basé géographiquement à Paris. Ensuite, parce que, bon, pour nous, Paris est une ville aussi très intéressante à étudier. C'est quand même la plus polluée en ce qui concerne le trafic routier. Et il y a aussi beaucoup de politiques qui ont été mises en place, notamment avec Anne Hidalgo, pour améliorer la qualité de l'air. Donc forcément, il y avait aussi, pour nous, un terrain de jeu qui était intéressant à appréhender. Mais on travaille sur tout. Enfin, en tout cas, on essaye d'aller sur tout. Et on a fait aussi des publications sur ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes, en région PACA, on a été en Corse, on est dans le Pays Basque. Donc non, on est vraiment au niveau national.
D'accord. Et vos adhérents, qui sont-ils ? C'est des collectivités territoriales ? C'est des associations ?
Non, nos adhérents sont des personnes physiques uniquement.
D'accord. Sur Paris, parce que nous on est une radio d'Île-de-France aussi, mais sur Paris, j'ai lu que la qualité de l'air s'était améliorée. Alors je sais qu'il y a les rues piétonnières dans les écoles. Oui, il y a les cours Oasis, je crois. Mmh. Alors il y a eu des efforts aussi en matière de circulation automobile. Qu'est-ce que vous en pensez en pratique? Comment ça se passe pour vous? Quel est votre constat sur Paris?
Alors, la première chose à dire, et vous avez raison de le rappeler, c'est que à Paris, la qualité de l'air s'est améliorée. Et donc, on voit notamment que sur les deux derniers mandats municipaux, sur le dioxyde d'azote, qui est un polluant émis principalement par le trafic routier, on a une baisse des concentrations de 40%. C'est quand même considérable. Et sur une plus longue période, d'une vingtaine d'années, on est à moins 50%. Donc, il y a quand même une vraie amélioration de la situation. Mais il faut aussi savoir que même si la situation s'améliore, elle reste mauvaise. Pourquoi ? Parce que les niveaux de pollution, pas qu'à Paris, mais à Paris notamment, sont encore trop au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé qui font foi au niveau sanitaire. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les gens soient en bonne santé. Quand on regarde les mesures qui ont été prises, globalement elles vont dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est des mesures qui visaient à réduire la place de la voiture en ville, donc notamment via les piétonnisations. On pense à la piétonnisation des quais de Seine. On pense aussi aux rues aux écoles, donc le fait de piétoniser les abords des écoles pour justement réduire aussi le trafic routier et la pollution. On pense aussi à la promotion de l'alternative, alors soit à pied comme on l'a cité, soit à vélo avec le développement des pistes cyclables. Et donc oui, toutes ces mesures ont permis d'améliorer les choses. D'ailleurs, Air Paris a sorti une étude très intéressante montrant que sur toute la baisse de la pollution, notamment les 40% que je vous ai cités, on sait dire que 25% de cette baisse est liée aux politiques qui ont été mises en place par la ville de Paris. Donc c'est quand même considérable.
Les mesures, en fait, sont faites par qui ? C'est votre association qui fait les mesures ou c'est Air Paris ?
Alors, il faut bien dissocier les choses. Air Paris est l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France. On a un équivalent dans chaque région. Donc, eux, ils font les mesures officielles, ils ont des stations de mesure, ils font aussi des modélisations dans les endroits où ils n'ont pas les stations de mesure parce qu'il n'y en a pas non plus énormément, et c'est très cher. Donc, c'est Air Paris qui a les données officielles. Et donc, les données que je vous ai citées là sont les données d'Air Paris. Respire, nous, ça nous arrive de faire des mesures, par exemple avec des microcapteurs avec des citoyens, en utilisant des capteurs qui ont été fabriqués notamment par les instituts de recherche comme le LOAC, qui est un appareil fabriqué par le CNRS qu'on utilise, mais on va le faire sur des campagnes ciblées. On ne pourra pas, en tout cas, se targuer
d'être
une association agréée, parce que c'est pas notre rôle. Nous, on est là pour sensibiliser, on est là pour faire avancer la cause, on est des lanceurs d'alerte. Et après, tant mieux si d'autres peuvent confirmer ce qu'on dit.
Est-ce qu'en votre qualité de lanceur d'alerte, justement, vous avez mesuré ou vous avez pris connaissance d'études sur les impacts du réchauffement climatique sur la qualité de l'air ?
Alors, nous, spécifiquement, non. C'est-à-dire qu'on n'a pas été mesurer ça. Pourquoi ? Parce que quand on parle du lien entre réchauffement climatique et pollution de l'air, on regarde notamment un polluant qui s'appelle l'ozone. L'ozone, c'est un polluant qu'on retrouve beaucoup en été, qui est un polluant secondaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement émis par l'activité humaine, mais il est issu de la combinaison de plusieurs polluants, les composés organiques volatiles et les oxydes d'azote émis par les voitures. Et c'est renforcé par l'ensoleillement, par les fortes températures. Donc c'est pour ça que les pics d'ozone sont toujours en été, et c'est pour ça aussi que c'est le seul polluant dont la concentration ne diminue pas avec le temps, comparativement aux autres, parce que le réchauffement climatique étant un phénomène de plus en plus présent, eh bien, ça renforce aussi la concentration d'ozone et les pics d'ozone. Donc ça, c'est le lien qu'on peut faire entre réchauffement climatique et pollution de l'air. Et nous, on n'est pas sur des mesures d'ozone, ça demande pour le coup des budgets ou des ressources qu'on n'a pas aujourd'hui. Par contre, bien sûr, Air Paris ou d'autres associations agréées dans les autres régions mesurent ces phénomènes.
Est-ce que vous disposez de subventions de l'État ou des collectivités, de la région par exemple, non ?
Alors,
ou des régions, puisque vous êtes sur tout le territoire.
On a aujourd'hui une subvention de fonctionnement de la ville de Paris. On avait une subvention de l'ADEME, qui est une agence de l'État, qui s'est ensuite arrêtée et qui finalement là devrait revenir, mais sur un projet qui n'est pas à Paris pour le coup, mais qui est à Marseille. Par contre, on n'a pas d'autres subventions publiques aujourd'hui. On fonctionne avec des fonds de dotation, des philanthropies, des entreprises et puis les dons des adhérents.
D'accord. Et c'est suffisant pour vous faire fonctionner. Vous avez combien de personnel ?
Alors, suffisant, c'est jamais assez. Hein.
Bien sûr.
Si on veut faire des projets, si on veut se développer, c'est jamais assez. Aujourd'hui, on est 3 salariés. Fut un temps, on était 4, voire même 5 avec une apprentie. Mais bon, les temps sont devenus un peu plus durs, donc il a fallu aussi réduire un petit peu l'équipe.
D'accord. Écoutez, j'allais vous appeler Gaël Faye, Tony Renucci. Je vous propose de faire une respiration musicale, bah justement avec Gaël Faye, et on se retrouve tout de suite après.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Michel grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face. Poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tout, c'est violent partout. La vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites. Quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer. Desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Respire. T'as le souffle court,
respire.
Quand rien n'est facile,
respire.
Même si tu te perds,
respire.
Et si tout empire, espère.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Et bien voilà, après cette respiration musicale avec Gaël Faye, on se retrouve avec l'association Respire et son directeur général, Tony Renucci. Vous êtes toujours là, Tony Renucci ?
Toujours.
Toujours. Alors, je vais vous parler de l'adaptation au changement climatique et de la végétalisation en ville, parce que voilà, beaucoup de villes en ce moment se mettent à faire des îlots de fraîcheur et puis à s'adapter au changement climatique pour se préparer au réchauffement d'ici la fin du siècle, en tout cas vers 2050, d'ici 2050. Qu'est-ce que vous pensez de cette végétalisation? Est-ce que vous pensez que ça peut améliorer la qualité de l'air? Est-ce qu'on a des études qui ont été faites ou pas?
Alors, quand on parle de végétalisation, on vise surtout quand même l'aspect climat en plus que la qualité de l'air. Et pour le coup, c'est très important, même si c'est pas moi le premier sujet que j'étudie. Quand on parle notamment des rues aux écoles, aux abords des écoles, quand on parle des cours oasis à l'intérieur des écoles, enfin, en tout cas dans les cours de récré, l'idée c'est quand même de faire réduire de plusieurs degrés la chaleur face à des canicules ou en tout cas des épisodes de chaleur qui arrivent de plus en plus tôt et qui sont de plus en plus forts. Donc ça, c'est une excellente chose, tant dans les écoles, aux abords des écoles, qu'ailleurs en ville, surtout dans des villes où on sait qu'on bétonne de plus en plus. Le lien après végétation, qualité de l'air, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de lien direct qui montrerait qu'on aurait un effet sur la qualité de l'air grâce à ça. Par contre, attention quand même au choix des essences pour la végétalisation, parce que certaines peuvent être très mauvaises, notamment au niveau des allergies. Et là, ça peut avoir un impact négatif sur la qualité de l'air auprès des personnes qui, justement, sont sensibles à ces allergies-là.
Est-ce que, à votre avis, donc, c'est le premier, si j'ai bien compris, le premier capteur, enfin, le premier élément négatif, c'est la circulation automobile pour la qualité de l'air?
Tout dépend de quel polluant on parle. Si on parle du dioxyde d'azote, le NO2, qui est un gaz très irritant pour les voies respiratoires, c'est bien sûr le trafic automobile qui en est la première cause. Si on parle des particules fines, la première cause d'émission de particules fines en France, c'est le chauffage au bois et l'activité industrielle. Et effectivement, le trafic routier n'est pas le premier contributeur, ce qui ne veut pas dire que ça n'en émet pas, mais c'est pas la première source d'émission. Après, ça, c'est les données d'ensemble, mais tout dépend aussi ensuite de dans quelle région on est. Il y a des régions comme typiquement la vallée de l'Arve où ils sont très soumis au chauffage au bois et c'est un vrai problème. Si on est dans le nord, on a le sujet des usines. Si on est en région PACA, on a aussi le sujet notamment du trafic maritime. Je pense par exemple à Marseille. Donc vous voyez, tout dépend sur quel territoire on se situe.
C'est vrai que la Haute-Savoie, que je connais bien puisque j'étais vers Saint-Gervais-les-Bains pendant quelques temps, et c'est vrai que cette vallée de l'Arve, en fait, on n'imagine pas, puisqu'on voit le Mont Blanc, on voit les montagnes, on a l'impression que d'une pureté, mais pas du tout. En fait, je crois que c'est un des endroits les plus pollués, une des vallées les plus polluées de France, c'est ça?
Complètement, mais notamment à cause du chauffage au bois, à cause des chaufferies biomasse. En fait, il faut faire très attention aussi aux implantations des chaufferies biomasse, parce que si on met ça à côté de zones, de lieux de vie, d'établissements souvent du public, d'écoles, ça peut être vraiment très mauvais pour la santé. Dès qu'on a de la combustion, on a de la pollution.
Quels sont les objectifs de l'association Respire pour 2026?
Alors, 2026, déjà, il y a une échéance, les élections municipales. Donc, on aura un manifeste avec des propositions qui seront d'ailleurs publiques, adressées à l'ensemble des candidats qui pourront s'appuyer dessus, notamment sur leur campagne. Et je pense qu'on essaiera de faire une action, une communication un peu plus ciblée, notamment peut-être sur les 30 à 40 plus grandes villes, pour les pousser aussi à prendre des mesures plus ambitieuses. Et puis, il y aura quand même aussi une suite à donner en termes de plan d'action sur comment est-ce qu'on arrive en conformité par rapport aux valeurs limites européennes en 2030. Il faut savoir qu'il y a une directive européenne sur l'air qui demande à tous les États d'arriver en conformité avec certaines valeurs limites d'ici 2030. Et donc, aujourd'hui, la France est loin du compte. C'est ce qu'on a démontré dans une de nos études qui est sortie au mois de juillet. Et la deuxième partie de cette étude, c'est justement une modélisation pour montrer quelles politiques publiques nous devons mettre en place pour espérer être en conformité en 2030. Et on sortira ça là très bientôt, je pense, en début d'année.
Donc ça, ces études et ces modélisations, on peut les retrouver sur le site de votre association?
Bien sûr. Donc la première étude, celle qui montre que la France est loin du compte et que typiquement à Paris ou à Lyon, on est encore deux fois trop élevé par rapport aux valeurs limites attendues. Vous pouvez la retrouver sur notre site, elle est sortie au mois de juillet. Et la modélisation sortira là en début d'année, donc je pense courant janvier.
D'accord. Et est-ce que vous avez le sentiment que les villes écologistes, enfin dirigées par des écologistes, on fait davantage pour lutter pour une meilleure qualité de l'air ou pas?
En tout cas, elles ont pris des actions. Oui. Ça, c'est indéniable. Et j'ai pu le constater. Je l'ai vu à Lyon. Il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites, notamment sur les rues aux écoles, sur la piétonnisation, sur les zones à trafic limité. Je l'ai vu à Grenoble aussi beaucoup. Ils ont quand même beaucoup travaillé aussi là-dessus sur les rues aux écoles. Je l'ai vu aussi à Bordeaux, où ils ont notamment aussi pris des mesures pour réduire un peu la place des SUV en ville. Donc j'ai vu aussi à Strasbourg. Donc oui, il y a quand même des choses qui ont été faites. Après, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet, heureusement, qui dépasse les clivages. Et je vois aussi des maires, même à droite, qui sont très conscients de ces enjeux-là. Vois par exemple dans le 9e arrondissement, la maire aussi a beaucoup œuvré sur les rues aux écoles à Paris. Hein. Donc il se passe aussi des choses de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une impulsion, il faut le reconnaître, qui a été donnée par la ville de Paris. Et qui, je pense, a permis ensuite aux autres villes de s'aligner.
Comment vous travaillez en fait sur les impacts de la qualité de l'air et de la santé ? Parce que bon, chacun d'entre nous peut constater quand il y a des canicules à Paris, par exemple, ou en Île-de-France, qu'on a des picotements dans les yeux, qu'on a des problèmes respiratoires, que si on fait un footing en même temps que la canicule, on a des problèmes respiratoires. Quelles études vous utilisez ? Celles de l'OMS ou des études plus spécifiques sur des régions ?
Alors, vous avez Santé publique France, qui est quand même l'organisme de référence aujourd'hui sur ces sujets, notamment avec les épidémiologistes qui travaillent dans l'organisation. Et donc, c'est comme ça qu'on sait aussi que la pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an en France. C'est comme ça qu'on sait aussi que à cause de la pollution de l'air, on a 12 à 20% des cas de maladies respiratoires chroniques qui sont liées à cette pollution chez les enfants chaque année. Donc, on a pas mal de données, en fait, avec Santé publique France, à la fois sur le nombre de morts, sur le nombre de maladies et sur les impacts aussi par territoire, par région.
Est-ce que vous pensez qu'on connaît suffisamment votre association ?
Non. On ne connaîtra jamais assez.
Ouais, oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais que vous êtes présent sur les médias, vous essayez d'en parler le plus souvent possible, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, du coup ?
Mais écoutez, ce qu'on peut faire déjà, c'est aller sur notre site internet.
Respire-asso.org,
le tiré du 6, asso, A2SO, hein, comme une association. Et vous pouvez vous renseigner sur nos actualités. Et vous avez aussi de la documentation sur la pollution, également sur les mesures préconisées, sur comment aussi se mobiliser dans votre ville. Si par exemple, vous voulez développer des rues aux écoles, interpeller les élus. Et puis, vous pouvez aussi faire un don à l'association, qui en plus, je le rappelle, est défiscalisable à hauteur de 66% des impôts. Donc tout ça nous permet aussi de fonctionner, d'avoir de payer nos prestataires, nos locaux, de faire des études et puis de communiquer aussi auprès de la population et des politiques, parce que c'est quand même eux qui ont les choses en main pour que ça bouge.
Alors imaginons, Tony Renucci, que je sois candidat à des élections municipales dans une commune. Est-ce que je peux retrouver sur votre site des bonnes pratiques ?
Oui, notamment sur le sujet des rues aux écoles, on a tout un guide méthodologique avec comment est-ce qu'on peut mettre en place une rue aux écoles, alors comment est-ce qu'on peut piétoniser, quelles alternatives on a si on peut pas totalement piétoniser, et en air piéton dans une rencontre, on explique très bien tout ça. Et puis il y aura le manifeste qu'on sortira, je pense probablement d'ici fin janvier, avec des propositions qui pourront s'appliquer dans toutes les villes, en fonction après des réalités, bien sûr, territoriales.
D'accord. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle ? Comment a commencé cet intérêt, à se manifester cet intérêt pour l'environnement, pour les questions environnementales ?
Alors, sur le sujet de la qualité de l'air, en plus précisément, en 2014, on a eu un très gros pic de pollution à Paris. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais oui. On ne voyait même plus la Tour Eiffel, tellement c'était pollué. Et ça m'avait pas mal marqué, et je m'étais dit, tiens, j'aimerais vraiment travailler là-dessus, d'autant plus que ça avait des conséquences sanitaires, parce que derrière un pic de pollution, c'est quand même des entrées aux urgences, des hospitalisations pour motifs respiratoires, etc. Et surtout, j'ai senti qu'il y avait un besoin aussi des acteurs publics d'être conseillés sur ce sujet, qu'on avait besoin un peu de mieux comprendre ce qui se passait, d'être un peu aiguillé. Et c'est comme ça, c'est cette dimension sanitaire-là qui m'a vraiment attiré sur ce sujet que je trouve passionnant, parce que je travaille avec tout type d'acteurs, avec des scientifiques, avec des médecins, avec des chercheurs, enfin j'en apprends tous les jours, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une étude sur la qualité de l'air. C'est vraiment passionnant comme sujet.
D'accord, ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de cette association ? Vous
l'avez dit, depuis novembre 2021.
D'accord, ça fait 4 ans, donc vous avez
exactement.
Vous avez eu le temps de déjà prendre vos marques sur cette association et puis voir un peu comment aboutissent vos projets, j'imagine.
Oui, bah, prendre mes marques, ça a été à marche forcée, parce que quand je suis arrivé, il a fallu quand même développer beaucoup de choses très rapidement. Il a fallu monter une équipe, il a fallu mettre en place aussi une organisation interne, monter des partenariats, développer un réseau avec des financeurs, donc et puis se positionner sur des sujets. Donc on a eu un rythme assez intense au début, mais en même temps je suis content de voir que on parle quand même beaucoup de qualité d'air. Alors pas forcément trop en ce moment. On est dans une situation quand même politique un peu difficile.
C'est vrai.
Mais c'est quand même quelque chose qui est maintenant dans tous les discours. Et il n'y a pas un candidat qui ne parlera pas de qualité de l'air.
Alors, j'ai pas bien suivi, mais dans les accords de Paris, par exemple, sur le changement climatique, on parlait de la qualité de l'air ou pas?
Non, pas vraiment, pas vraiment, directement. Hein, pas... En fait, pendant les COP, indirectement, quand même, on en parle, parce que on parle quand même des énergies fossiles, on parle quand même aussi de la combustion, donc c'est quand même abordé, même indirectement. Mais c'est vrai que les COP aujourd'hui ne mentionne pas vraiment les sujets de qualité de l'air, et c'est bien dommage. J'espère qu'on arrivera à faire bouger ça.
Oui. On a une climatologue, Valentine Piton, qu'on a reçue dans cette émission, qui est une climatologue suisse, qui nous disait d'ailleurs que la dernière COP, en fait, c'était un peu scandaleux le résultat de cette dernière COP, et que c'était triste aussi de voir que la délégation française était largement composée de représentants des énergies fossiles, dont le patron de chez Total, par exemple, et d'autres qui étaient présents dans la délégation française. Et on se peut se poser la question, est-ce que ces COP servent encore à quelque chose ou pas?
Voilà. En tout cas, je partage son inquiétude. Mmh. Et j'ai pu constater aussi à quel point certains lobbies avaient leur porte d'entrée directement chez les ministres.
Ouais.
Et ils pouvaient les alimenter. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais il faudrait qu'il y ait plus d'équité entre eux et nous, c'est-à-dire des associations, en tout cas une société civile, qui prône peut-être des choses différentes et qui aimerait aussi avoir la même écoute. Et moi, j'ai pu le constater sur certains sujets, comme, par exemple la réglementation sur Euro 7 pour les émissions des véhicules, où je voyais bien que le cabinet du ministre de l'Industrie n'avait pour seule source que les données données par les constructeurs automobiles, alors même qu'on avait d'autres études et d'autres données qui démontraient qu'il fallait aller plus loin. Oui. Donc je pense qu'il y a un peu cette relation quand même un peu trouble parfois aussi.
Mmh. Où on en est, j'ai plus bien suivi là, les moteurs thermiques qui devaient être interdits au niveau européen en 2030 ou 2035, oui. C'est ça, 2030 c'était?
Alors, la vente des véhicules neufs thermiques doit être interdite en 2035.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est
encore d'actualité.
Prévu. Ouais. Mais c'est toujours prévu comme ça, mais effectivement, c'est contesté, notamment par certains pays. Donc, il faut tenir bon. Il faut tenir bon, et surtout, il faut que les constructeurs aussi, aujourd'hui, changent de stratégie, les constructeurs automobiles. Mmh. Parce que c'est eux qui se plaignent et qui essayent de faire en sorte qu'il y ait un report. Ou... Ouais. Qu'on puisse intégrer d'autres types de technologies dans les véhicules autorisés. Mais si on veut atteindre nos objectifs climatiques et en plus avoir un impact positif sur la qualité de l'air, ça ne passera que par l'électrification.
Alors, voilà. Merci beaucoup, Tony Renucci. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été notre invité. Donc, Tony Renucci,
merci.
Vous êtes le directeur général de l'association Respire. Et je remercie Francky qui m'accompagnait pour la réalisation de cette émission. Mission Planète Terre, c'est le nom de l'émission. Et on se retrouve dans 15 jours. Merci, Tony Renucci. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.